Bienvenue sur le podcast « Si on sortait de la boîte ». Je m'appelle Caroline Prudhomme et je coach en séparation familiale et en évolution personnelle. Mon intention avec ce podcast est de vous offrir une invitation à sortir de la boîte de votre esprit et à croire que tellement plus que ce que vous pensez est possible pour vous. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on discute de séparation familiale, mais aussi et surtout de l'incroyable opportunité d'évolution personnelle qu'elle nous offre. On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur le 12e épisode de « Si on sortait de la boîte ». J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver avec moi aujourd'hui parce que la conversation que je vous présente, c'est une conversation que j'avais vraiment hâte de vous partager. Aujourd'hui, l'épisode, ce que vous allez entendre, c'est un épisode que j'ai enregistré avec Cindy Morin, qui est une femme tellement douce, tellement sereine, puis... On ressent beaucoup, beaucoup ces deux qualités-là qu'elle a dans la conversation que j'ai eue avec elle. Elle nous parle de son parcours dans la séparation familiale, mais en fait, surtout le point à retenir, je pense, dans son cheminement, c'est le fait qu'elle s'est sortie d'une relation de violence conjugale, puis elle nous en parle avec plein de... d'ouverture, de vulnérabilité, mais de sérénité aussi. Puis elle nous parle aussi de ses enfants, de son enfant à besoins particuliers, puis de l'impact que cette relation de violence conjugale-là a eu sur sa relation avec ses enfants aussi. C'est tellement une conversation que j'ai aimé avoir. C'est fait en toute vulnérabilité. C'est vraiment un très, très beau partage là, que Cindy elle nous offre. Puis j'ai le sentiment que ça peut aider beaucoup de gens. Même si vous ne vivez pas de la violence conjugale, le chemin d'acceptation de soi et de circonstances qu'on ne peut pas changer peut-être, ou d'introspection, en fait, que Cindy a fait, puis dont elle nous fait part, dont elle nous parle, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment magnifique. C'est un partage de cœur, puis j'ai adoré avoir cette conversation-là avec elle. Alors, j'ai vraiment hâte que vous l'entendiez. Et puis, j'aimerais aussi vous inviter à m'envoyer vos commentaires. Peu importe, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins sur le podcast. Est-ce que vous aimez ça quand je vous fais un petit update en début ou seulement... Ou c'est préférable seulement l'épisode avec l'invité, si les épisodes solo vous manquent ou si vous aimez vraiment mieux le partage avec les invités, justement. Puis tout est parfait, là, sentez-vous très à l'aise. Si je demande un feedback, c'est vraiment parce que je le veux. Alors, j'ai hâte de vous entendre. Et puis aussi, avant de débuter l'épisode, avant de vous laisser sur ma conversation avec Cindy, j'avais envie de vous parler encore de la masterclass Crack Your Code qui a été reportée en fait à lundi prochain. Il y a eu des circonstances dans ma vie personnelle dernièrement qui font que moi, je pense qu'il faut avant tout incarner le message qu'on passe. Puis pour... être authentique et vrai avec moi-même et incarner justement ce que moi j'ai envie de vous partager, j'ai décidé de changer la masterclass de place et de la décaler d'une semaine en fait pour être pleinement présente avec vous quand je vais la donner et puis aussi pour vous offrir le meilleur de moi-même parce que je pense que c'est super important. Cette masterclass-là, j'ai vraiment, vraiment hâte de la donner parce que c'est sur un outil qui m'est utile à tous les jours, tout le temps, à chaque fois que j'ai des décisions à prendre, quand j'ai des triggers qui apparaissent. Peu importe, c'est vraiment un outil que j'utilise souvent. Puis je pense, en tout cas pour moi, ma vérité à moi, c'est que c'est un des outils qui m'a le plus aidé dans mon développement personnel et qui m'aide aussi dans mon évolution personnelle, qui m'aide à long terme. Donc, c'est comme la trame de fond, toujours. Puis c'est des choses que ça m'aide à me réorienter puis tout ça. Alors, je le sais que vous allez retirer vraiment beaucoup de valeur de cet atelier-là. J'ai envie de nommer aussi que c'est pas nécessairement pour les gens qui sont en séparation familiale, là. C'est vraiment, vraiment pour vous accompagner sur votre processus d'évolution personnelle. Alors, c'est axé sur l'évolution personnelle, c'est pas axé sur la séparation familiale. Alors, si ça vous parle, puis vous vous demandiez je devrais-tu m'inscrire parce que ça me touche pas la séparation familiale ou peu importe, ben non, pour n'importe quel changement de vie ou pour, en fait, n'importe quel désir d'évolution personnelle. Alors, même si ça n'a pas rapport avec un changement de vie nécessairement, mais si vous vous questionnez ou si vous avez envie d'apprendre à mieux vous connaître puis d'axer sur l'introspection dernièrement, bien ça, ça va être un merveilleux atelier. Puis un très, très bel outil à mettre dans votre boîte à outils. Alors, c'est lundi le 25 octobre. C'est dans un groupe privé Facebook. Je vous laisse, vous allez avoir accès à l'atelier pendant 2 semaines en rediffusion. Il y a une journée, dans le fond, une heure, lundi le 25 octobre, où je vais vous présenter cet outil-là. En fait, ensuite, vous allez avoir accès à des exercices de journaling que je vais envoyer suite au premier live que je vais vous envoyer par courriel. Et puis ensuite, une semaine plus tard, donc lundi le 1er novembre, il va y avoir une période de questions-réponses parce que je sais que c'est un exercice qui amène beaucoup de questionnements, en fait. C'est comme si on est tellement habitué de se faire dire qu'est-ce qu'il faut faire, puis qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, qu'on a peur de pas bien faire cet exercice-là quand en fait tout est parfait, puis que il y a des choses qui vont être vraies pour nous qui ne seront pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Donc oui, il y a des guidelines, l'outil, je vais vous le présenter, c'est merveilleux, c'est pour découvrir votre code unique, mais je le sais que ça fait beaucoup ressortir de questionnements parce qu'on est tellement dans le contrôle, on a de la difficulté à lâcher prise ou à laisser aller ou à accepter en fait qu'est-ce qui vient. Puis aussi beaucoup le perfectionniste qui entre en ligne de compte. Alors j'ai tenu à faire une période de questions-réponses parce que je pense que c'est vraiment très aidant là, pour cet exercice-là. Alors je vais vous mettre le lien pour la page d'inscription dans les notes du podcast de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi l'épisode. Là, surtout là, c'est un épisode qui est sur un sujet tellement tabou. La violence conjugale, c'est pas juste de la violence physique, c'est aussi de la violence psychologique. Puis ça a des répercussions, des très grandes répercussions là, sur notre relation à nous-mêmes, sur la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, sur nos autres relations aussi dans notre vie, là, parce que ça vient blesser profondément quelque chose à l'intérieur de nous, là, ou en tout cas mettre en lumière quelque chose qui était blessé à l'intérieur de nous. Alors, je pense que c'est pas assez discuté, je pense que c'est encore trop tabou, puis je pense aussi que ça fait partie de la réalité de beaucoup plus de gens que ce qu'on pourrait croire de l'extérieur. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode-là à n'importe qui que vous pensez dans votre entourage, à qui ça pourrait être bénéfique, en fait. Alors, sur ce, je vous laisse écouter ce magnifique épisode avec la très douce Cindy. Bonjour Cindy, bienvenue sur Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Toi aussi, ça va?
Oui, super bien. Et je vais commencer en te posant la même question que je pose à tout le monde, parce que je pense que ça nous aide de se retrouver dans l'histoire de l'autre. Qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
Pour vrai, c'est toute une question. Ça me ramène à 6 ans en arrière. Et je me rends compte que mon évolution s'est vraiment faite. Pendant ces 6 ans-là, il y a eu plusieurs événements déclencheurs. C'est comme si je voyais l'évolution comme un ascenseur, puis qu'on devait visiter un palier à la fois. Puis une fois qu'on avait tout visité le palier, on ramassait ce qu'on avait de besoin et on embarquait dans l'ascenseur. Et on montait au palier 2, on revisitait là le palier, on prend ce qu'on avait de besoin et on remonte, et c'est comme ça à l'infini. Donc, le premier élément...
J'aime ça comme image.
Le premier élément déclencheur, ça a été vraiment la séparation d'avec le père de mes enfants. J'ai vécu 8 ans et demi avec lui. C'est une relation de violence conjugale, on va se le dire, on va dire les vrais termes, de violence physique, psychologique, sexuelle et aussi au niveau monétaire. Donc, sortir de cette vie de couple-là, j'ose appeler ça comme ça, ben ça m'a permis de reconnecter à mon être, vraiment. J'ai vraiment l'image du lion qui est pris dans une cage. Vraiment.
Wow.
Puis que la porte s'ouvre. Sauf que ce lion-là, là, il a faim. Il a faim de la vie. Donc, il tombe dans l'autre extrême. Autant il était coincé, autant là, il veut profiter des petits plaisirs de la vie, tout ça. Donc, j'ai basculé vraiment dans le plaisir, dans « Wouhou, on profite de la vie ». J'avais 2 garçons à ce moment-là aussi. Puis j'étais maman monoparentale parce que papa a décidé que lui, la garde, il la voulait comme une fin de semaine sur deux et tout ça, et j'ai respecté. Donc, j'étais avec mes enfants. Quand j'étais pas avec mes enfants, je profitais de la vie. Donc, j'étais vraiment lionne.
Mm-hmm.
Puis, j'étais gamine, en fait, là. C'est comme si on me replongeait à 16 ans. Parce que quand le temps fige, parce que j'ai l'impression que figé pendant 8 ans et demi, à vivre des patterns en boucle et tout ça, mais tu replonges où tu avais laissé ta vie. Donc, oui, j'étais une maman de 27 ans, mais j'étais aussi une gamine de 16 ans, là.
Qui avait je trouve ça intéressant que tu nommes ça parce que, tu sais, comme on parlait avant l'épisode, puis c'est quelque chose qui m'est venu dernièrement aussi, puis que je t'ai nommé, puis j'ai l'impression que, tu sais, là, tu dis, à cause de cette relation-là, c'est comme si j'avais mis sur pause, mais j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, que même sans cette pause-là, on se retrouve un peu tous dans cette situation-là, dans le sens qu'on a une vie de maman, on a des responsabilités, on a la responsabilité de la vie de d'autres personnes, là, qui sont nos enfants. T'sais, on a un emploi, de l'extérieur, on a l'air de des adultes, mais à l'intérieur de nous, j'ai pas le sentiment qu'on se sent tous comme ça, t'sais, qu'on se sent tous adultes et pleinement responsables et pleinement incarnés dans notre rôle d'adulte. T'sais.
Exactement. Puis je pense que c'est un travail long terme, tout ça, parce que l'expérience que la vie va t'offrir va te permettre justement de faire évoluer du côté gamin au côté femme. Adulte. Et justement, cette transition de vie-là, ma séparation, m'a amenée à me remettre en question. J'ai eu 2 ans vraiment intensif de gaminerie, là, que j'avais besoin d'être vraiment dans le plaisir, de pas trop me casser la tête. Mais quand j'étais mère à 100% et la gamine se faisait tasser. C'était vraiment le rôle de maman qui prenait place. Et une fois que j'ai compris que j'étais une enfant, j'ai réalisé que mon travail m'amenait à connecter avec ce côté-là parce que j'ai été éducatrice pendant 11 ans. Oh. Alors, je me ramenais à chaque fois, j'étais au même niveau qu'eux. Je m'amusais, j'avais du plaisir, je faisais des blagues, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et quand j'ai compris ça, ça a été l'élément déclencheur numéro 2 aussi. Wow, je fais ce métier-là, pourquoi là? Qu'est-ce qui m'apporte? Et plus la femme en moi évoluait, et plus je sentais un détachement avec mon travail aussi.
Wow.
Alors, tu passes de gamine à femme mûre, alors là, tu te dis, OK, mais mon travail, ça n'a plus rapport. Alors, les questions.
C'est comme si le travail d'éducatrice spécialisée que tu avais venait nourrir l'enfant intérieur, dans le fond.
Exactement.
Le besoin de jeu puis de plaisir de l'enfant intérieur, puis peut-être d'être entouré de personnes qui lui ressemblent.
De légèreté. J'ai l'impression que ça a été là pour ma guérison.
Oui.
Ça a été vraiment puissant au niveau de ma guérison. Tu vois, j'en parle, j'en ai des frissons, fait que confirmation. Ça a été vraiment puissant. Puis plus je me détachais, plus je me questionnais à mon avenir professionnel. Je me dis, ça n'a pas de sens, j'ai pas envie de le vivre comme ça. D'être éducatrice en garderie, Et je me suis rendu compte que j'étais au service des enfants 24 sur 24. Parce que je faisais mon corps de travail, j'arrivais à la maison, mes enfants ont des besoins particuliers, donc j'étais une maman éducatrice aussi. Donc c'était 24 sur 24. Je voulais faire fleurir la femme, puis je voyais qu'elle avait besoin de continuer d'évoluer. Mm-hmm. Donc là, je me suis mis à réfléchir sur ce que j'avais envie de vivre par rapport à mon travail. Je trouvais pas. Puis là, oups, il y a une formation Reiki qui est apparue sur mon fil Facebook, mon feed Facebook. Et je me suis dit, OK, on va faire ça, puis on verra bien. Puis je continuais quand même à réfléchir sur mon avenir. Et ça a été vraiment le Reiki. Ça a ouvert des portes. Et tranquillement, j'avançais dans mon Reiki et je suis tombée en arrêt de travail parce que j'étais brûlée. Juste brûlée de donner de cette façon-là. Et mon garçon aussi m'envoyait des sons de cloche énormes, mon grand coconut. Fait que j'ai été obligée de prendre un recul. J'ai senti que je devais prendre le recul. J'étais en arrêt pendant 3 mois. Et c'est là qu'on s'est connus, Caroline, dans le fond, parce que j'ai suivi le programme Momentum avec toi. Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidée.
On s'est connus par un programme d'entrepreneur
spirituel.
Comment elle appelle ça, Gaïa? Ouais, entrepreneur holistique, entrepreneur spirituel, je sais pas trop. Ouais, pour les lancements d'entreprise, ouais.
C'est ça. Fait que ça m'a ouvert aussi d'autres portes. Et comme la vie est bien faite, je sentais que je ne retournerais pas travailler. Mm-hmm. Et pourtant, j'ai eu une rencontre avec mon employeur, puis j'ai dit « c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? » Puis on a épluché les solutions et aucune vibrait pour moi, aucune faisait du sens pour ma vie de famille, aucune faisait du sens pour moi, alors j'ai juste donné ma démission. Mm-hmm. On se rappelle que je suis maman de monoparentale et qu'il n'y a rien devant moi, là. C'est un saut dans le vide, là. Wow! Et la vie, comme elle est bien faite, l'univers est vraiment de notre côté. Le lendemain, j'avais une rencontre pour l'évaluation de mon garçon pour autisme. Et le diagnostic tombe. Et là, j'y explique la situation. Et elle me dit, tu sais que vu que tu es maman monoparentale, vu ta condition de vie, tu as le droit au chômage. Alors, j'ai fait mes démarches chômage et j'ai eu le droit un chômage pendant un an, pas loin d'un an, dans le fond, de février à novembre. Ça a été comme le temps de me retrouver, de retrouver ma famille. La reconstruction a commencé à se faire là avec mes garçons. Je les choisissais, je me choisissais moi aussi. Et il est arrivé comme la COVID aussi pendant ce temps-là, pour ne pas la nommer. Fait qu'on a pu vraiment se reconnecter.
Oui.
Puis, avec les diagnostics, c'est ça. Mon grand coconut a un diagnostic d'autisme, de dysphasie, de dyspraxie et de TDAH avec impulsivité.
C'est quoi la dyspraxie?
La dyspraxie, c'est tout au niveau moteur. Le cerveau va décortiquer chaque mouvement. Okay. Comment placer ta langue pour tel mot. Le cerveau va dire, OK, place ton pied de cette façon-là pour frapper le ballon. Alors, il va tout décortiquer chaque mouvement, ce qui occasionne un retard moteur, en fait, là. Ouais.
Puis ça doit être lourd pour l'enfant dans son quotidien aussi, là, d'avoir genre un manuel d'instruction pour chaque affaire qu'il fait, qui se passe dans son cerveau, là.
Effectivement, ça a pris comme un 3 étés apprendre à faire du vélo. Parce qu'il y a tellement de choses à penser. Je dois penser à mon équilibre. Je dois penser à mes pieds qui doivent avancer. Ah, j'ai l'autre pied aussi qui doit pousser. Je dois tenir mon guidon et je dois observer autour de moi les dangers. Ouais. Fait que ça a été vraiment long.
Tout ce que nous, on fait au niveau inconscient, normalement, c'est lui, ça se tout passe ce au niveau comme conscient.
C'est ça. Wow. Tout ce qu'il fait naturellement, lui, il décortique. Fait que, ouais, ça a pris 3 étés. Mes 2 garçons ont appris le vélo à 2 roues en même temps, là. Puis mon plus vieux avait 8 ans, mon plus jeune, 5.
OK.
Qui ont parti en même temps, je vais te voir, super. Ouais. Puis la dysphasie, c'est un retard de langage.
Okay.
Donc, c'est ça, formuler des phrases, dire les bons sons. Des fois, ils sautent les R, là. Ça ne fait pas partie de ce qu'il est capable présentement. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il y a eu ce diagnostic-là. Puis avec le TDAH, impulsivité, ça fait que les choses doivent vite se passer. T'sais, c'est maintenant, on avance, puis c'est ça, c'est impulsif, ça va vite. Fait que
mais ça doit être difficile pour lui de gérer ça à l'intérieur de lui, oui. Mélangé avec sa dysphrasie. Comment
dyspraxie, tu veux dire?
Oui. Merci, dyspraxie. je vais l'avoir, le mot. Avec sa dyspraxie qui, dans un sens, l'amène à être plus lent. Puis oui. son TDAH, impulsivité, l'amène à vouloir aller vraiment vite, puis une impatience. Fait que ça doit créer un conflit, une confrontation incessante à l'intérieur de lui, là.
C'est sûr qu'il y a des crises majeures qui se passent, là. T'sais, oui. Les crises peuvent durer de 15 minutes à 3 heures.
OK.
C'est des crises de colère parce que, dans le fond, il ne comprend pas l'émotion que ça, oui. ça lui fait vivre. Oui. Il est en explosion.
Mm-hmm.
Donc, dans la dernière année, c'est vraiment ça qu'on vit. Des crises qui étirent plus vers le 45 minutes à 3 heures. Ça aussi, ça fait partie d'un wake-up call de mon côté. De
mais dire, c'est que toi, que... comme maman, ça doit t'amener à grandir oui. beaucoup puis à développer des outils pour l'aider. Parce oui. que là, il faut non seulement que toi, tu te gères émotionnellement, ben gérer, j'aime pas ça ce mot-là, oui. là, mais que toi, tu as une
les émotions très grande à travers conscience. Besoin. Oui.
C'est ça, de ce qui se passe intérieurement pour toi, au niveau de tes émotions, pour être capable d'accompagner tes enfants là-dedans aussi, tu sais.
Oui, oui, ça a été vraiment quelque chose. Puis moi, je n'étais pas quelqu'un qui demandait de l'aide. Je suis capable de faire les choses seule.
Oui, on est toutes capables, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de...
C'est ça. Donc, j'ai appris à demander de l'aide.
Oui, c'est ça. Je me demande d'être là, des fois. Ouais.
C'est ça. Oui, je suis capable, mais il y a une limite à ce que l'humain est capable de faire aussi, là.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dépassé des limites immenses parce que je ne connaissais pas mes limites, en fait, par rapport mm-hmm. à mes enfants.
Mmh.
Alors, ça m'a amené à dire « Wow! » Là, j'appelle le CRDI. Là, j'appelle le CLSC. J'ai besoin d'aide. Lumière rouge, aidez-moi. Je trouve ça exigeant. Mmh. Puis mon autre petit bonhomme aussi doit être accompagné là-dedans. Parce que là, il ne comprend pas que son frère explose puis qu'il se revire contre lui aussi des fois. Là. Fait que ça m'a amené à transformer énormément mon rôle de mère. De connecter avec l'empathie, de plus être comme dans la vieille méthode d'éducation, de c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Là, il y avait comme une souplesse, il y avait une écoute qui était là. J'ai connecté avec mes émotions, ce que j'avais comme jamais réellement réalisé. Puis je pense qu'on s'en était parlé l'autre fois, que notre intelligence émotionnelle est arrivée à 30 ans, tu sais.
Oui, oui, exactement.
Ça fait partie de l'ancienne éducation, mettons.
Oui.
Et là, j'ai l'impression que je chemine vraiment main dans la main avec mes deux garçons.
Wow!
Et encore là, tu sais, j'arrive à un moment de transition, j'ai pris une grosse décision que mon garçon, on avait besoin, lui et moi, de faire une coupure. Que lui ait vivre son petit bout de chemin seul et moi vivre mon bout de chemin seul aussi pour réorganiser notre structure familiale, mais aussi nos émotions.
Mais votre dynamique,
oui,
votre dynamique familiale, en fait, c'est la dynamique entre toi et lui, je pense,
c'est
de
ça.
Ce que tu me nommais tantôt. Là, ouais.
Oui, parce que ayant vécu la violence conjugale, oui, ça a de l'impact sur moi, mais ça a de l'impact sur les personnes qui en sont témoins et qui le vivent aussi. Et je me suis rendu compte que lui, inconsciemment, il se plaçait au-dessus de moi parce que c'est comme ça qu'il l'a vu, c'est comme ça qu'il l'a
compris. C'est ça qui a été modélisé dans son... Oui. Dans sa jeune enfance, dans le fond, dans sa petite
exactement.
Enfance. Fait que forcément, tu sais, puis à ce moment-là, les choses s'ancrent plus profondément dans notre cerveau parce qu'on n'a pas de pensée critique, puis on n'a pas la possibilité de faire un recul entre la personne que notre parent est puis la personne que nous, on est. Fait que forcément, s'il a vu son père agir comme ça envers toi, ben c'est lui, ça. C'est le comportement à adopter envers maman, tu sais.
C'est ça, ça a été son modèle.
La dynamique de pouvoir, oui.
Ça a été son modèle masculin, donc a pris inconsciemment cette place-là. Donc, je me suis dit, moi, j'ai besoin de faire un bout de chemin seul pour venir guérir certaines blessures qui ont été créées il y a 6 ans,
oui.
il y a 8 ans, il y a 10 ans.
Mm-hmm.
Et lui aussi va revenir de cette expérience de vie-là, transformée aussi, parce qu'il va être accompagné.
Puis j'imagine, c'est ça, il va être accompagné, c'est là. Excusez. Voyons, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Désolée. J'imagine que c'est un espace où il va y avoir, comme tu dis, qui va être accompagné, puis lui, ça va sans doute lui permettre de développer des outils aussi pour son quotidien, puis pour sa gestion d'émotions à lui, qui doit être encore plus, je veux pas utiliser le mot difficile, mais plus challengeant peut-être que...
Oui, c'est un défi pour lui.
Pour la majorité des... c'est ça, un défi pour la majorité des enfants.
Oui, oui. Puis lui... Tu sais, oui, il a 10 ans physiquement, mais psychologiquement, tout son intérieur, il n'a pas 10 ans. Il n'est pas à ce niveau-là. Il est comme quelques années en... Attends un peu. en, pas en retard, mais il a comme 6 ans. Des fois, il a 3 ans. Tu sais, il n'est pas constant dans son intérieur. Des fois, j'ai des discussions avec un garçon de 10 ans, là. Je suis capable, on est capable d'échanger, ça va bien. Mais des fois, il y a 3 ans, là. Fait que c'est plus difficile de connecter avec lui à ce moment-là, là. Oui.
Oui, ouais, c'est ça. Puis je serais curieuse de savoir, pour les gens qui se retrouveraient peut-être dans ton histoire, dans la partie de ton chemin où il y a eu de la violence conjugale, est-ce que... Comment on se... J'essaie de bien nommer les choses, là, mais comment on se reconstruit de ça ou comment on se reconnecte à nous-mêmes après ça, ça doit être un très grand défi.
Oui, effectivement, c'est sûr que seul, c'est difficile. Donc, tu vas chercher des spécialistes. Moi, j'ai été voir plusieurs psychologues. Mm-hmm. Là, j'ai contacté le CAVAC, qui lui fait un point de bascule vers l'IVAC. Donc, je vais être accompagnée, vraiment spécialisée pour... La violence, vraiment.
Okay. L'IVAC, c'est la violence conjugale?
De? L'IVAC, oui, c'est dans le fond, c'est un soutien pour ceux qui ont vécu, c'est une indemnisation.
OK.
Pour ceux qui ont vécu la violence. Donc, tu reçois un certain montant pour justement guérir avec des psychologues ou autres spécialistes. Mmh. Et on me dit que j'avais le droit de la physio aussi. Tu sais, il y a comme... un grand volet de spécialistes qui s'ouvrent à toi. Là, c'est pas juste psychologique, c'est les blessures physiques qui ont été faites aussi. Ils t'accompagnent à travers ça. C'est vraiment bien. Puis tu vois, pour mon garçon aussi, il a le droit à l'IVAC. Il a le droit à une indemnisation. Il a le droit à un suivi, lui aussi. Puis dans le temps,
c'est
il
juste,
pas...
Est-ce que c'est seulement pour les gens qui ont été victimes de violences physiques, ça, ou psychologiques aussi?
À partir du 13 octobre, là, cette année, les mesures vont être changées. La violence psychologique va être prise en compte. Les autres sortes de violences vont être prises en compte. Donc, ça va aider les femmes et les hommes qui ont vécu différentes sortes de violences. Ça va l'ouvrir des portes plus grandes, là.
Wow! Ouais. C'est donc bien le fun, ça, comme accompagnement, comme soutien. On va mettre le lien dans les notes du podcast pour que les gens puissent aller voir aussi, parce que, tu sais, des fois, on ne connaît pas les ressources qui s'offrent à nous, puis on sent, j'imagine qu'on se sent tellement seul là-dedans que, tu sais, on ne sait pas par où le prendre, là, un moment donné, là, ça doit devenir... tu sais, déjà, juste le fait de quitter ça, ça doit être comme déjà un très, très grand pas, là, de,
c'est sûr que tu perds tes points de repère. Tu perds tes points de repère parce que tu as été dominé tu as été dominé tant d'années que quand tu te ramasses seul, quand tu fais le choix d'être seul, tu recherches des points de repère. Mm-hmm. Tu te cherches toi parce que tu ne sais plus qui tu es. Tu as été tellement dominé, tellement contrôlé que tu es éteint. Puis tout ce que tu veux, c'est refleurir à nouveau, fait que oui, c'est tout un parcours. Puis tu vois, les psychologues offrent le EMDR, c'est une sorte d'hypnose qui vient travailler sur tes traumas. Donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Une de mes amies l'a vécu, puis elle est transformée aujourd'hui de ça. Elle est comme en paix. Puis
mais parce que je pense, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que dans le fond, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va changer l'émotion associée au souvenir, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Parce que tu t'es créé une façon de le voir, mais là, il vient tout comme défaire ça. C'est une distorsion cognitive qui appelle.
Oui, fait que ça vient changer ta perception pour que tu te sentes plus en puissance ou plus dans ton pouvoir dans ces situations-là dans lesquelles tu n'as pas pu être dans ton pouvoir, dans le fond, c'est ça, oui.
Exactement. Fait que c'est tout un processus, puis le pardon aussi. Le pardon envers toi et le pardon envers lui. envers l'agresseur, on va l'appeler comme ça, mais c'est le plus difficile, c'est envers toi. Pourquoi j'ai accepté ça?
C'est ça que j'allais dire, en fait.
Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi est-ce que je me suis laissée contrôler comme ça? Parce qu'en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour dire non. On n'a pas les outils pour... C'est assez. Alors, c'est là-dessus que tu travailles dans le après. Mm-hmm. Tu travailles tes outils, tu travailles tes limites, tu prends conscience du respect. Qu'est-ce que c'est le respect envers toi? Ça travaille la relation que tu as avec toi-même en premier. Puis, tu sais, je suis célibataire depuis plusieurs années, là, ça fait 3 ans. Puis c'est un choix conscient que je fais parce que j'ai besoin mm-hmm. d'être avec moi-même. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de répondre à ces choses-là qui ne sont pas guéries.
Mm-hmm.
Et pour moi, c'est wow de me retrouver enfin seule, de pouvoir célébrer la personne que je suis parce que je suis une belle personne. Donc, on ne se le dit pas, mais on est magnifique, tu sais.
Mais oui.
Mais on se l'est fait dire tellement souvent qu'on n'était pas chez nul.
Oui.
Que c'est difficile de ramener ça. Fait que, tu sais, ça fait quand même 3 ans que je suis célibataire. Et wow! Et wow! Tu sais, tellement d'éléments.
Oui, c'est ça. Peut-être que tu vas pouvoir, peut-être que ça va te parler ou pas, mais tu sais, quand on dit qu'on ne peut pas aimer pleinement quelqu'un tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes... On dirait exactement. Que moi, j'avais... Tu sais, c'est comme une phrase qu'on connaît intellectuellement, là. Genre, c'est correct, on le sait, je comprends, mais dans le fond, non. Tu sais, dans le fond, on le comprend souvent pas. Puis, tu sais, moi, ça fait aussi 4 ans que je suis célibataire, puis là, je me sens finalement prête à rencontrer quelqu'un après 4 ans.
Wow.
Et mm-hmm. encore là, je nomme ça, mais tout de suite, il y a des peurs qui viennent parce que j'ai peur de me réabandonner. J'ai peur de retomber dans les patterns dans lesquels j'étais avant. J'ai peur de ne pas être assez solide dans ma relation avec moi-même pour ne pas me perdre dans une relation avec l'autre. Puis tout ça, ça fait que... Tu sais, puis ces 4 ans-là m'ont laissé l'espace pour comprendre justement profondément qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'aimer soi pleinement avant d'aimer quelqu'un, tu sais. Puis on peut pas... T'sais, on a envie de créer une relation qui est complètement différente de ce qu'on a toujours connu. Ben là, je parle pour moi. Là, t'sais, on a envie de créer une relation consciente, une relation connectée, une relation profonde, un partenariat, en fait, plus qu'un... de pas rentrer dans les dualités puis les trucs de force, mais vraiment d'être en partenariat puis d'avoir envie mm-hmm. d'évoluer ensemble. Mais ça, si on se laisse pas l'espace pour le faire avec nous-mêmes avant, on n'est pas capable de rencontrer l'autre personne à ce niveau-là, parce que c'est impossible de rencontrer l'autre personne à un niveau où nous, on ne se rencontre pas nous-mêmes, tu sais.
C'est ça. Puis on cherche avec notre tête.
Oui.
C'est ça, je veux, c'est ça, je veux. Mais c'est le cœur qui a besoin de parler en premier. Puis comme tu dis, on s'en donne en premier et après, on est capable d'offrir. Si tu n'es pas capable de t'en offrir, tu ne seras pas capable d'en donner de toute façon. C'est comme ça, où tu vas tellement en donner que la personne va prendre pour acquis que, ben, elle va m'en donner de l'amour d'attitude, tu veux pas aller non plus quémander, tu sais, dans les deux sens,
ça.
Tu veux pas aller quémander de l'amour pour que l'autre te remplit. Tu veux être une personne en unité.
Oui, c'est ça. La relation complète, c'est un espace où 2 personnes complètes se rencontrent pour avoir envie de vivre des choses ensemble, mais en n'ayant pas besoin d'être complétée par l'autre. Moi, je suis pleinement moi, puis on va se rencontrer dans le milieu, on va vivre des choses ensemble, mais toi, tu vas continuer à vivre des choses dans ta vie à toi aussi qui te permettent de te sentir accompli, puis tu vas prendre soin de ton bien-être à toi, puis moi, je vais prendre soin du mien, puis quand on va se rencontrer ensemble, ça sera pas pour venir combler ces besoins-là, mais ça va être pour avoir une expérience commune, c'est ce qui est vraiment, vraiment différent.
Tout à fait. Tu n'es pas dans le manque. C'est pas une relation que le manque attire le manque. C'est ça.
C'est ça. C'est pas un moment où tu as besoin d'être avec quelqu'un. C'est un espace où tu as envie d'être avec quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de toi. C'est très, très différent, comme tu dis, le fait du manque de ça. Mais... Puis j'imagine que ça se reflète aussi dans ta relation avec tes garçons parce que tu dis justement que quand on n'a plus rien à donner, on peut pas, tu sais, quand on donne, à un moment donné, il n'y a plus rien à l'intérieur de nous, puis on ne peut pas donner. Mais je pense que ça, c'est une prise de conscience que tu as eue avec tes garçons parce que tantôt, tu nommais aussi que tu donnais comme maman, mais à un moment donné,
le puits est vide.
C'est ça.
À un moment donné, tu viens saturer de données, ça fait des points de bascule. Le balancier fait rééquilibre, revient en harmonie dans ta vie. Puis c'est de là les décisions qui se prennent, qui font peur, mais qu'à un moment donné, c'est nécessaire. Oui. Parce que je me rends compte que ma vie de famille impacte toutes mes sphères de vie.
Oui.
Tu sais, c'est fou. On arrive en retard à l'école parce que j'ai géré une crise, parce que j'ai besoin d'être là avec mon enfant. J'ai envie de l'accompagner au maximum là-dedans, qu'il vive son émotion.
Mm-hmm.
Mais après, une fois que tout ça est fait, que j'ai réussi à l'accompagner à l'école puis que tout s'est bien passé, moi, je tombe plus d'énergie parce que j'ai tellement donné. Mm-hmm. Tu sais, une crise, tu sais, j'appelle ça des crises, mais c'est vraiment ça, c'est des crises de colère. Et quand la colère est présente, oublie, là.
Non, ça prend toute la place.
Il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus d'ouverture, là. Mm-hmm. Donc là, tu tombes en mode protection. Puis une fois qu'il redescend de sa crise, là, tu peux échanger, là, tu peux modeler. Mais comme je te disais, ça peut durer de 15 à 3 heures. Mm-hmm. Donc, une fois que le 3 heures est fait, puis tu vas le porter à l'école, mais toi, t'es vidé pour le restant de ta journée, là.
C'est clair.
Fait que là, t'as besoin de te recentrer sur toi. Donc, c'est pour ça que cette prise de décision-là, d'envoyer, de dire à mon garçon, là, tu vas aller vivre dans un centre pour un certain moment, le temps que maman, elle vienne guérir ses blessures, et le temps que toi aussi, tu chemines à travers ça.
Mm-hmm.
Parce que c'est pas de l'abandon que je viens faire vivre à mon enfant. C'est « je t'aime tellement, je nous aime tellement
mm-hmm. »
qu'on va prendre une distance émotive à travers ça. On va prendre une distance physique aussi pour recréer une vie de famille complètement différente, pour venir changer cette dynamique-là. J'ai pas le goût d'être challengée le restant de mes jours. Puis toi non plus, je suis certaine que t'as pas envie de vivre ça le restant de tes jours. Donc, on va créer cet espace-là de ton côté et du mien pour pouvoir fleurir et s'enraciner différemment. Ça aussi, tu sais, même ma voix est partie depuis 2 semaines parce que ça vient m'éveiller des émotions, ça vient me brasser en dedans. Et je trouve que c'est positif. Mm-hmm. C'est positif. Je pleure ma vie, là. Ça arrive, là. Pour un rien, puis c'est correct. Il faut que ça sorte. J'ai envie que ça sorte. Puis c'est correct. Tu sais, il y a une certaine paix qui est là, même s'il y a un mélange émotionnel. Il y a des fois, c'est ça. Tu sens que c'est comme ça que ça doit se dérouler. Ouais.
Ouais, mais je trouve ça beau t'entendre parler de ça parce que, tu sais, on sent une très grande acceptation dans la façon dont t'en parles. Puis comme tu nommes, une paix aussi, puis un laisser, pas un laisser aller, mais un lâcher prise. Tu sais, c'est comme si t'étais sortie du besoin de contrôle, puis là, t'étais dans l'accueil. Dans l'accueil de qu'est-ce qui se présente, puis dans l'acceptation de qu'est-ce qui se passe. Puis je trouve ça beau parce que, tu sais, si on laisse notre ego entrer en ligne de compte, comme tu dis, tout de suite, la première chose vers laquelle on se tourne, en entendant ce que tu dis, c'est « Ah, oh, mon Dieu, elle va abandonner son fils. » Mais dans le fond, non! C'est vraiment tout le contraire de ça, tu sais.
Effectivement, on me l'a nommé. On me l'a dit, tu abandonnes ton enfant. Et c'est sûr que ça vient shaker des choses en toi. Ça vient shaker des choses. « Wow, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? » Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Donc, je me suis repositionnée par rapport à ça. Ceci n'est pas de l'abandon, mais c'est de l'amour. Je nous aime tellement que j'ai besoin de vivre ça. J'ai envie que ça se passe comme ça.
Oui, puis je pense que quand c'est perçu comme de l'abandon, il y a aussi beaucoup parce que quelque chose qui est très vrai pour moi, là, c'est de prendre des décisions basées dans l'amour, comme tu nommes, versus la peur. Puis je pense que quand on parle d'abandon dans la situation que toi tu vis avec ton garçon, les gens qui voient ça comme de l'abandon, je pense qu'il y a de la peur là-dedans, la peur de la perte de contrôle, la peur de la perte de la relation, la peur de versus quand toi tu le nommes, c'est vraiment au contraire, comme tu dis, dans l'amour, puis dans le non, j'ai envie qu'on soit capable de genre, il faut changer le sol là, dans lequel on pousse parce que pour le moment, ça ne fonctionne pas. T'sais, il manque de nutriments, il manque de peu importe qu'est-ce qui manque, mais il y a des outils ou il y a des choses nécessaires qui ne sont pas présentes. Mm-hmm. Puis des fois, c'est bon qu'on aille le chercher chacun de notre côté pour ensuite l'apporter dans cette relation-là ensemble, oui. Puis changer la relation, la dynamique relationnelle, en fait.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que ça fait une coupure. Ça fait une coupure. T'sais, dans le quotidien, je ne l'ai pas vécu encore. Mais il va y avoir une coupure.
Mm-hmm.
Là et là. Et c'est ça qui fait peur. Puis comme tu as nommé, la relation va être différente quand il va revenir. C'est sûr. Et ça fait peur mm-hmm. de perdre certains acquis qui fonctionnaient bien. Tu sais, des mm-hmm. choses que ça allait bien. Pareil, entre nous, c'était pas toujours le gros drame. Mais ça prenait énormément de place. Et c'est comme je te dis, une décision basée sur l'amour apporte quelque chose de plus grand après.
Mm-hmm.
J'ai hâte au retour aussi.
Oui.
J'ai hâte de revivre quelque chose avec lui parce qu'on va être deux personnes différentes. Donc, le noyau familial, tout ça va être différent.
Oui, puis forcément, ça va avoir un... Je pense, en fait, je connais pas là, ta dynamique familiale, puis tes enfants, puis tout ça, mais de l'extérieur, que ce qui me vient, c'est que ça va aussi beaucoup, sans doute avoir un impact positif sur ton garçon qui est plus jeune, parce que lui, ça va lui laisser un espace pendant ce moment-là
oui.
pour connecter émotionnellement avec plus avec toi, parce que j'imagine que, tu sais, lui, c'est son frère, il a envie de l'accompagner aussi, puis il a envie que son frère soit bien, mais pour lui, il ne doit pas avoir, malgré tout, malgré toutes les meilleures intentions du monde, tu peux pas maintenir l'espace émotionnel pour deux enfants, genre pleinement à 100% pendant ce temps-là. T'sais, humainement, c'est pas possible de faire ça toute seule.
C'est
là,
sûr que c'est vraiment difficile pour lui de prendre sa place présentement.
C'est ça. Fait que là, lui, ça va lui laisser cet espace-là. Puis j'imagine que quand ton garçon plus vieux va revenir aussi, ça va lui... T'sais, la dynamique relationnelle va être différente, mais la dynamique familiale, surtout parce que ton garçon plus jeune va avoir eu l'espace pour se découvrir un peu plus librement dans cette dynamique-là que vous allez avoir créée ensemble. Puis ton garçon le plus vieux va avoir développé des outils qui vont venir l'aider à pouvoir comme intégrer la dynamique familiale, mais d'une façon différente aussi. T'sais, fait que ça va être beau pour toute votre famille. Là. C'est un beau cadeau que tu vous fais, en fait. T'sais.
Oui, c'est comme ça que je le vois. Je te dirais que J'ai vécu les étapes du deuil quand même parce que
forcément.
Une décision ne vient pas en disant « c'est beau, je suis dans l'acceptation, merci, on passe à autre chose ». Non.
Mais non.
Il y a toujours un flot émotif qui vient. J'ai eu le déni aussi, je me suis fermé les deux yeux. Ceci n'arrivera jamais, même si c'est ma décision. Ou tout ça va arriver comme vraiment plus tard que ce que je le voyais. Finalement, tu passes ces étapes-là et oui, arrive à un moment où tu dis « Ah, oh, c'est correct. C'est ça qui va arriver.
Mm-hmm. »
Et c'est correct.
Mm-hmm.
En fin de semaine, je l'ai pleuré énormément, puis c'est correct. J'avais besoin de le vivre. T'sais, j'étais en préparation de sa valise et je me disais « Ok, ceci est pour le mieux. J'ai le droit quand même d'être triste d'en arriver là. Mais ceci, mes intentions sont bonnes. Donc, pas de culpabilité, c'est correct. » Parce que oui, il y a eu un moment de culpabilité où tu te dis, c'est-tu parce que j'ai pas essayé assez fort? C'est-tu parce que je suis pas assez bonne? Et non, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en tant que mère. C'est juste que notre relation, la façon qu'on s'est attaché, il y avait quelque chose à être changé.
Wow, j'aime ça, le style d'attachement. Oui, c'est vrai ça. Ah, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, tout ça. Puis toi, ça va te laisser aussi plus d'espace à toi pour te reconstruire là-dedans, tu sais. Puis là, maintenant, tu dis, tu sais, on dit on veut avoir des impacts dans une sphère de notre vie, mais finalement, on se rend compte que ça en a dans toutes les sphères de notre vie à chaque fois qu'on fait un changement à quelque part ou une amélioration, entre guillemets. J'aime pas ça, ce mot-là, mais à chaque fois qu'on... change de niveau d'ascenseur, comme tu as imagé tantôt.
À chaque fois que... Fait que là, je suis en train de prendre ce que j'ai de besoin dans mon palier, puis je sens que j'embarque dans l'ascenseur dans pas longtemps aussi pour aller visiter un autre palier, là. Je me sens là, dans cette transition-là, là. Vraiment.
Oh, oui. Puis c'est beau, tu sais, comme tu dis, tu le sens, on dirait que quand on devient attentif à ça, je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, je me rends compte de plus en plus de ce qui se passe à l'intérieur de moi avant, tu sais, pendant que je suis dans une prise de conscience ou qu'il y a une grosse prise de conscience qui veut arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Il y a souvent beaucoup de triggers qui ressortent, des déclencheurs. Il y a, je suis comme testée dans mes patterns, dans ces affaires-là, pour voir si je vais continuer à réagir de la façon que je réagissais avant ou si vraiment, genre, c'est quelque chose qui est intégré. Puis tout ça, comme si l'univers voulait me dire, genre, t'es-tu vraiment prête, là, à aller de l'avant? Genre, t'es-tu vraiment pleinement dans ta valeur personnelle? Puis tu le sais, comme, parce que, est-ce que tu vas être, faut que tu sois capable de soutenir qu'est-ce qui s'en vient après, dans le fond. Tu sais, c'est comme une préparation. Puis quand on est dedans, on le voit pas tout le temps, puis c'est comme, c'est gossant, tu sais, parce que tu te dis, ah, c'est comme si j'ai perdu mes acquis ou je sais pas trop. Dans le fond, c'est pas ça. C'est juste comme...
Tu viens t'enraciner encore plus en profondeur.
C'est ça. Ouais. Hey, j'aime ça, ça. Tu viens t'enraciner plus en, plus en profondeur. Puis dans ce temps-là, si on est capable de le reconnaître, ça, bien, on l'accueille comme une bénédiction plutôt que d'avoir une résistance face à cet espace-là. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit.
La résistance, elle vient quand même, mais à un moment donné, tu lâches prise. C'est comme je te dis, c'est en étapes que tu le vis. Quand tu es dedans, c'est sûr que tu ne vois pas. Puis à un moment donné... À force de le vivre à tous les jours, tu dis, bon, là, on prend le recul nécessaire pour prendre action et faire les bons choix. Parce que c'est sûr que si tu es toujours dans ton émotion, tu vois rien. Tu vois rien, tes deux yeux dans rien, en fait, là, tu sais, dans la graisse, là.
Non, mais à force de le vivre... on est en mode survie dans ce temps-là, puis on est dans le cerveau reptilien, puis on n'a pas d'espace pour... tu sais, on n'a pas accès à notre... néocortex, puis le cortex préfrontal qui fait qu'on est capable d'avoir une perspective puis de prendre des décisions plus réfléchies. Tu sais, on est tout dans le mode survie, fait que dans ce temps-là, on n'est pas capable de prendre une distance avec notre émotion.
Mm-hmm. Oui, c'est exactement ça. Fait qu'une fois que tu as pris le recul sur tes émotions, mais là, c'est ça, les décisions éclairées se prennent basées sur l'amour. C'est le cœur qui parle. Oui, ça l'a besoin. Que le cœur ait cette place-là. Parce qu'une décision de tête, oh, c'est plus froid. C'est plus froid, l'intention est différente, j'ai l'impression.
Oui. Mais c'est plus froid, puis c'est aussi souvent pas aligné avec la personne qu'on est, parce que c'est très souvent conditionné par... c'est très souvent ancré dans nos conditionnements, puis dans nos programmations, puis dans nos croyances limitantes, les décisions de tête. Parce qu'on n'écoute pas, comme tu dis, nos émotions ou notre corps ou tout ça. Puis on le sait, tu sais, même notre corps, il nous parle tellement, là, on le sait dans notre corps quand c'est la bonne chose ou pas, tu sais, mais on n'est tellement pas habitué d'écouter ça qu'à la place, on écoute notre tête. Puis après, on se réveille à un moment donné dans... en tout cas, moi, ça a été ma vérité, là, de me réveiller un moment donné dans une vie qui me correspondait pas du tout sous aucun aspect ou presque. Puis de me dire comme comment je me suis rendue là, ben c'est justement en n'écoutant pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, puis en écoutant qu'est-ce qui se passait dans ma tête, puis à l'extérieur de moi, à la place, tu sais, de retrouver cet espace intérieur-là.
On accorde beaucoup d'importance à ce qui vient de l'extérieur. Mm-hmm. Les gens qu'on aime nous disent des choses et on a tendance à prendre, mais ça fait pas résonance avec nous parfois, là.
Non, c'est ça, puis c'est correct de prendre qu'est-ce qui vibre avec nous, comme tu dis, puis de ne pas prendre le reste, puis c'est aussi, on a tendance, j'ai remarqué ça, on a tendance à aller demander conseil justement aux gens qu'on aime, aux gens autour de nous, mais très souvent, les gens à qui on va demander conseil, ils ne vivent même pas qu'est-ce qu'on a envie, nous, de vivre ou de créer pour notre vie à nous, puis on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, mais dans le fond, s'ils ne sont jamais passés par là... Ils n'ont pas la, premièrement, ils n'ont pas la même vision, comme tu dis, qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce que nous, on a envie de créer, les pas pour eux. Puis, s'ils ne sont pas passés par là, comment ils peuvent me donner des conseils pour comment y arriver? C'est plate, là, ça n'a rien à voir avec la personne, c'est pas ça du tout, mais c'est juste de se dire, comme, si tu n'as pas déjà marché le chemin, comment tu peux me guider dans ce chemin-là? C'est, dans ma tête, à moi, c'est pas possible. Mm-hmm. Mais on fait ça, puis après ça, on prend leur opinion, puis on se dit « Ah, c'est vrai, il m'a dit ça, fait que je devrais l'écouter, je devrais pas faire ça », au lieu d'écouter qu'est-ce qui est vrai pour nous. C'est que c'est
comment
fou,
comment tu le files.
Oui.
Oui. Mais c'est tout un apprentissage d'apprendre à savoir ce qui fait du sens pour nous et non. Mm-hmm. Tu sais, même après 6 ans de séparation, il y a encore des petites roches dans mes chaussures. Mm-hmm. Et je vais chercher conseil encore. Comment je fais pour les enlever, ces petites roches-là là, qui viennent déranger ma vie, qui viennent déranger mon chemin? Et je recherche de l'extérieur, mais je le sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai les outils, là. Mais je me sens coincée encore avec ces maudites roches-là, t'sais. Puis tu veux guérir, tu veux avancer, donc oui, tu vas rechercher conseil. Oui.
Oui, c'est vrai. Mais aussi, comme tu dis, même après 6 ans, il reste des petites roches de ça, puis je trouve ça beau, je trouve que c'est une belle image, puis de voir que c'est un chemin qui est pas, tu sais, ça arrive pas tout dans les 6 premiers mois, je suis guérie, puis c'est fini, il n'y a plus rien qui va ressortir, là, c'est pas ça la réalité, puis on dirait que c'est tellement ça qui est véhiculé dans la société en général, mais tu sais, même après 4 ans, moi, j'ai eu des guérisons à faire par rapport à cette relation-là cet été, même si mon deuil amoureux est terminé, le deuil de cette relation-là n'est pas terminé. T'sais, ça, c'est quelque chose à différencier parce que les émotions amoureuses, elles ne sont plus là depuis un moment déjà. Mais il y a tout plein de guérisons qui sont associées à ça parce que c'est autant la relation avec l'autre, mais souvent notre relation amoureuse. Puis je marche toujours un peu sur des œufs quand je dis ça, surtout pour des gens qui ont été dans le type de relation que toi, tu as été. T'sais, où il y a de la violence puis tout ça, parce que je trouve que des fois, ça peut être difficile à entendre ou à nommer ou peu importe, mais tu sais, notre relation est toujours un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous puis de ce qu'on a besoin de travailler, tu sais, fait que forcément, en tout cas, je parle pour moi, la relation, il reste encore des choses à guérir parce que c'est encore des choses que je dois travailler puis cette relation-là était juste un miroir de ce que j'avais à travailler à l'intérieur de
Exactement.
Moi.
Exactement. En fait. Est venue toucher, pas des failles, mais oui, des failles à guérir, des petits touch-ups, là. Tu as besoin d'aller revoir ça pour flatter ce côté-là, pour l'amener plus positivement. Tu sais, mettons, je sais pas, on parle d'abandon tantôt, mais est-ce que c'est venu faire ça en toi? Tu sais, qu'est-ce que c'est venu faire en toi, cette relation-là? Qu'est-ce qu'elle est venue toucher en toi qui a besoin d'émerger et de guérir? Donc, oui.
Oui, puis je serais curieuse d'entendre ton point de vue. Tu sais, comme justement, tu as vécu une relation de violence. Oui. Puis par rapport à ça, par rapport à ce reflet-là, toi, avec le recul, qu'est-ce que ça te nomme? T'sais, dans le sens que, je ne sais pas comment bien le nommer, là, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur de toi qui fait que tu as laissé l'espace pour devenir la victime de cette personne-là, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas bien nommé, là, j'ai l'impression.
Non, mais je le comprends, je me sens pas attaquée à travers ça.
Non, mais c'est ça, je veux pas dire que tu as... Que tu as attiré ça. C'est pas ça que je veux dire.
Je l'ai attiré parce que moi, je suis quelqu'un qui croit que tout le monde est bon. Il y a personne qui est là pour faire du mal à une autre, voyons donc, et surtout pas dans une relation amoureuse.
Ouais.
Tu veux la même chose que moi. C'est tout. C'était ma vision. Et je vais te dire oui parce que je t'aime. Et toi, tu vas me dire oui parce que tu m'aimes. Et là, tu embarques dans cette relation-là et tu fais... Et il te le nomme, tout ce que tu vas me donner, je vais te le redonner en triple, en quadruple. Tu vas voir, ça va être merveilleux. Mais finalement, tu avances à travers ça et tu sens que les taux se resserrent. Aïe, aïe, je suis en carence, moi, là. Tu me donnes pas ce que tu m'avais promis, mais je vais continuer à t'en donner. Peut-être que j'en donne pas assez. Peut-être c'est ça, j'en donne pas assez. Et là, tu tombes dans ce pattern-là et oublie. Il te met dans la cage. Il met un barreau à chaque jour autour de ta cage du lion, là.
Oui, mais tu sais, quand on a... Qu'est-ce qui me vient avec ça, c'est que, tu sais, on a fait un live, Cindy et moi, il n'y a pas longtemps, sur le conflit de loyauté chez les enfants. Puis en se préparant à ce live-là, on avait parlé du triangle de sauveur, victime, bourreau. Puis qu'est-ce que tu viens juste de nommer, ça me fait vraiment un lien avec ça en disant que peut-être que je t'en donne pas assez, donc je vais essayer de te sauver en te donnant plus d'amour, mais en faisant ça, je vais devenir ta victime, puis toi, tu vas devenir mon bourreau.
Il va pouvoir en profiter, c'est ça. Il va pouvoir avoir contrôle sur moi, puis c'est ce qui est arrivé, là. Il y avait vraiment le contrôle sur tout, là.
Tous les aspects. Puis aussi de dire, puis je te rejoins dans la... Puis je sais que c'est difficile à concevoir des fois pour les gens quand on parle d'une situation comme ça, mais je te rejoins dans l'espace où je pense que tout le monde est fondamentalement bon, puis que c'est des mécanismes de défense qu'on développe qui deviennent des comportements toxiques à cause de situations qu'on a vécues ou qu'on a perçues, la perception qu'on a eue de ces situations-là à ce moment-là. Mais c'est que ça devient tellement ancré à l'intérieur de nous, c'est tellement fort, c'est... comportements toxiques-là qui sont des mécanismes de défense pour notre cerveau, que finalement, ça devient notre façon d'être, tu sais, pour certaines personnes, puis à certains niveaux.
Pour se protéger, oui. Oui, oui. Oui. Parce que quand tu regardes quelqu'un qui fait vivre de la violence ou qui vient faire vivre de la toxicité, on le dit-tu de même, oui? Quand il fait vivre ça à l'autre...
Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire.
C'est parce qu'il a vécu quelque chose en lien. Il y a une blessure profonde en lien, puis lui, il va se padder, là. Je vais me protéger tellement que finalement, je vais devenir ce que j'ai vécu. Ou en tout cas, il va y avoir des comportements qui vont se répéter. Dans mon cas, c'est des schémas qui revenaient. J'ai vécu, je vais te transmettre ce que j'ai vécu. Oui.
Oui, ouais, c'est ça. C'est aussi de voir que, tu sais, moi, on m'a appris que aimer, c'était comme ça qu'on aimait parce que c'est comme ça que mes parents m'ont aimé, entre guillemets, tu sais. Ou c'est comme ça que quelqu'un m'a aimé. Fait qu'aussi, on modélise. Ça, c'est vraiment, tu sais, la modélisation aussi, là, l'enfant à la base ou le prend qu'est-ce qui lui est offert comme exemple puis il va répéter la même chose. Pas dans toutes les situations. Des fois, il va y avoir un 180 puis on va se dire, genre, j'ai envie de créer complètement autre chose. Mais c'est pas... Mm-hmm. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Ben malheureusement, heureusement, je sais pas, là, tu sais, il y a pas... C'est neutre, puis, en fait.
Dans un certain sens, on louange le sauveur. Tu sais, dans tous les films d'amour que l'homme ou la femme... Tu sais, on louange toujours ce sauveur-là. Mm-hmm. Tu sais, dans les films, c'est « Ah, elle va pas bien », mais là, un homme arrive dans la vie et sauve la situation. Ah ben, il vécu heureux et eut beaucoup d'enfants, tu sais.
Oui, comme si quelqu'un à l'extérieur de nous allait venir nous sauver, mais dans le fond, non, cet espace-là, il faut le créer à l'intérieur de nous-mêmes, là, tu sais. Il y a pas personne de l'extérieur qui va venir nous sauver, il y a personne qui va régler, il y a rien qui va régler la situation de façon magique. Tu sais, c'est comme aussi la pensée magique de se dire... genre, au lieu d'essayer de créer l'abondance financière pour moi-même, je vais attendre de gagner au loto. Je vais acheter des billets de loto. c'est pas ça qui va se passer, tu sais. Ça se passera pas comme ça. Puis même si ça se passait, si t'as pas guéri ou si t'as pas appris qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as à apprendre, ben tu vas recréer les mêmes situations dans lesquelles t'es maintenant. Fait que tes millions, ils vont disparaître en 2 secondes. C'est tes acquis qui te sont envoyés de l'extérieur. Tu seras même pas capable de les maintenir, en fait, parce que t'es pas... devenu la personne que tu dois être pour être capable de les maintenir. Mm-hmm.
C'est ça. Non, je suis vraiment d'accord. Puis une relation, ça se construit à deux. Et non un qui décide que la relation, ça va être ça, et l'autre se soumet à ce qu'il est. Et une relation de famille, c'est comme ça aussi. Oui, il y a le parent qui est là, mais il n'est pas en domination avec son enfant. Ils font quand même un certain travail d'équipe. Oui, il est la figure d'autorité, la figure parentale. Mais il y a quelque chose qui est capable de se modeler parce que c'est pas juste une personnalité, une personne qui va créer l'énergie de famille. C'est tout le monde ensemble. Alors, de discuter avec les enfants de ce qui fait sens, ce qui fait pas sens, bien, ça amène une unité de famille, ça amène une harmonie.
Non, tout à fait. Puis tu sais, le parent, la façon dont je le vois, le parent, il est là pour apporter des balises de sécurité, tu sais, puis de, genre, en tout cas, parce que peut-être qu'on a une vision plus globale de la situation, mais comme tu dis, je pense que c'est important d'être sur un pied d'égalité. Puis je le sais, ça, que ça dérange beaucoup de gens, que d'être sur un pied d'égalité avec notre enfant, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste moi qui a quelque chose à lui transmettre. Lui aussi, il y a beaucoup, beaucoup à me transmettre, puis souvent, on a plus besoin de nos enfants qu'eux, ils ont besoin de nous. On a plus besoin d'apprendre qu'est-ce qu'eux, ils ont à nous apprendre qu'eux ont besoin d'apprendre qu'est-ce que nous, on a à leur apprendre.
Mm-hmm. Puis on a chacun notre rôle. Tu sais, on dit oui, l'égalité pour la discussion, pour comment est-ce qu'on vit notre famille, mais le parent reste quand même, si on parle d'autorité, il se présente supérieur. Et j'aime pas le mot, ça fait vraiment dominant, mais il se présente quand même au-dessus de l'enfant, justement pour ils mettent, comme tu dis, les balises pour y mettre la sécurité, pour y dicter un peu, pour y apprendre les valeurs aussi qui sont importantes. Puis après, l'enfant va choisir, lui, ce qui fait sens ou non.
Oui, mais je le vois comme un guide, le parent, de plus en plus. Un peu comme, tu sais, on dirait que qu'est-ce que je vois de plus en plus dans ma pratique professionnelle a un lien avec qu'est-ce que je vois dans ma vie personnelle, évidemment, comme on a mis tantôt. Mais que c'est... que ce soit avec mes enfants ou avec mes clients ou peu importe, avec n'importe qui, avec mes amis, avec, tu sais, de sortir du paradigme qui dit que j'ai raison puis je sais mieux que toi qu'est-ce que tu devrais faire, mais à la place de croire pleinement en le pouvoir de l'autre, que ce soit mon enfant, que ce soit mon ami, que ce soit mon client, de lui redonner ce pouvoir-là, de lui refléter en fait tout le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de lui, puis toutes les connaissances qu'il y a déjà qui sont là. Il sait déjà, mon enfant, il sait déjà qu'est-ce qui est bon pour lui. Puis et mon client, la même chose, mes amis, la même chose. Moi, je suis juste là pour leur refléter qu'est-ce qu'eux, ils nomment, qui sont peut-être pas capables de voir parce que ça se passe à l'intérieur d'eux, puis ils n'ont pas cette distance émotionnelle-là, tu sais. Puis avec les enfants, je pense que c'est vraiment la même chose, là. Puis c'est quelque chose que j'intègre avec mes enfants beaucoup aussi, le fait d'écouter son cœur puis pas sa tête.
Mm-hmm. Qu'elles ont, c'est tout un apprentissage.
Oui, mais qu'elles comprennent déjà à 5 ans puis à 7 ans. Puis je pense que ça, en leur donnant cet outil-là, ça amène l'espace aussi pour elles de prendre des décisions qui sont pleinement alignées avec elles. Puis ça me permet, moi, de maintenir cet espace de guide-là, mais pas d'autorité ou de pouvoir. Ou
j'aime beaucoup le mot guide. Oui. Oui, c'est doux, puis effectivement, ça fait pas contrôle, ça fait pas « voici le chemin tracé pour toi
oui. ».
C'est vraiment « guide, je suis là à t'accompagner sur ton chemin, puis tu oui. vas le tracer comme t'en as envie, là ouais. ».
Oui, exactement, c'est ça, puis je vais le découvrir en même temps que toi, tu sais. Je vais marcher oui. à côté de toi, puis on va le découvrir ensemble.
C'est ça,
fait oui. que tu seras pas tout seul là-dedans, tu sais. Je pense que c'est vraiment, vraiment important, ça, comme changement de paradigme, en fait, parce que ça peut s'appliquer justement dans toutes les sphères, puis je pense que ça sert beaucoup mieux tout le monde que de se faire dicter qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, tu sais.
Effectivement. Ouais. Puis si je regarde mes trois éléments déclencheurs, relations amoureuses, travail et famille, c'était toutes des relations de domination aussi. Je vais te dire ce que tu as à faire.
Oui.
Moi, je suis supérieure à toi et suis ce que j'ai à te dire.
C'est alors, ça reflète tout un, c'est tout un reflet de ta relation avec toi-même, puis sans doute de la valeur que tu t'accordais, toi, comme personne.
À ce moment-là, oui. Oui.
Oui. Oui. C'est intéressant, tu sais, ça t'a été reflété de très grande façon avec ta relation amoureuse. Après ça, plus petit avertissement, il te reste encore des acquis à avoir avec ta relation professionnelle. Puis là, il y a peut-être d'autres couches d'oignons, d'autres pleurs d'oignons qu'il faut enlever puis aller voir en dessous qui t'est reflété avec ta relation avec parentale.
Oui.
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 C'est vraiment beau, ça. Hey, wow! Mais merci, Cindy. Je vais être respectueuse de ton temps.
Merci.
Yeah. Merci beaucoup de cette merveilleuse discussion. Je me demandais si tu as quelque chose qui te vient comme mot de la fin ou que tu aimerais partager avant qu'on termine.
On a tout ce pouvoir-là intérieur de faire changer notre vie. Puis, je trouve important de revenir à soi et de s'écouter pour mûrir à travers les expériences aussi. Parce qu'une expérience n'est pas là pour nous jeter à terre, mais pour nous faire grandir.
Oui, puis ça, j'imagine que ça doit être difficile de le voir quand on est dans une relation de violence, mais je trouve ça beau pour les gens qui vivent cette situation-là, d'avoir justement le reflet de ton histoire qui fait que c'est possible. T'sais, c'est vraiment possible de se reconstruire de ça, puis de reconstruire notre relation avec nous-mêmes, en fait, ce que tu fais depuis 6 ans déjà, tu sais.
Oui, oui, oui. Fait que oui, ça fait mal de vivre ça, mais c'est là pour te faire évoluer, grandir, transformer, pour reconnecter à toi, là, entièrement.
C'est vraiment beau, ça. Merci beaucoup, Cindy. Si on veut plus de toi, où on peut te retrouver?
Et on peut me retrouver sur ma page Facebook, Les Clés du cœur. Dans le fond, pour les soins Reiki aussi, c'est là que tu vas me retrouver. Sinon, j'ai un groupe privé, les Guerrières Moms, pour justement accompagner les mamans monoparentales à travers leur processus, à travers leur vie de famille et leur vie de femme.
Oui, ouais, ce rôle qu'on oublie si souvent. Ouais. Puis, tu dis les séances Reiki, c'est là qu'on te retrouve aussi. Est-ce que c'est des choses qui se font à distance ou on doit absolument être en personne? Ou
Je peux faire en distance, à distance et en présentiel aussi. Mon site web aussi est relié à ma page Les Clés du cœur aussi sur Facebook. sur l'Instagram aussi, c'est les clés du cœur. Donc, tu as accès vraiment à mon site Internet là. Puis la prise de rendez-vous se fait également sur mon site Internet.
Parfait, merci beaucoup. On va mettre... Je dis toujours « on », comme si il y avait une équipe un jour, mais pour le moment, c'est juste moi. Alors, je vais mettre dans les notes du podcast tes liens. Puis merci encore beaucoup pour ton temps aujourd'hui, puis pour ton partage. Tu sais, t'as vraiment partagé de façon vulnérable puis ouverte, puis je t'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup.
Merci à toi, je suis vraiment contente de cette discussion.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée puis je te dis à la semaine prochaine!